Merci d'être venu. Si j'étais vous, je serais allé dans un autre séminaire parce qu'il va vous montrer des clips de YouTube qui sont vraiment impressionnants sur ce sujet. Ah, mais cette session est remplie, vous nous dites. Ah, mais c'est pour ça que vous êtes ici. Vous avez essayé d'aller dans le gymnase? Ah, c'est rempli aussi. Ah, c'est bien d'avoir les restes, même si c'est bien rempli. Je vais faire de mon mieux. Comme vous le savez, lorsqu'on a annoncé que nous allons faire cette conférence qui accompagnait le nouveau livre, ce que nous avons reçu comme retour de nos amis charismatiques, c'était des critiques très aiguisées, certaines avec de l'amertume. Et beaucoup de critiques sont venues sous la forme de blogs, de tweets et d'articles dans des magazines ou d'affirmations publiques. Et ces critiques sont venues avant même que qui que ce soit ait pu lire les livres. Mais dans les statistiques, je peux vous dire, il y a plus de personnes qui regardent ces conférences par live streaming, donc par Internet, qu'en personne. Donc, à mes amis charismatiques, je vous dis bienvenue à la discussion. Je suis reconnaissant de votre retour et de vos réponses. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer suite à cette conférence. Une des critiques les plus acclamées ou les plus lues est venue de Michael Brown, qui a écrit plusieurs articles dans le magazine online Charisma, et qu'il a dit qu'il était choqué que de la citation MacArthur qui dirait que certaines pratiques charismatiques étaient blasphématoires. John MacArthur avait affirmé que beaucoup de pratiques charismatiques et de phénomènes courent le risque de blasphémer le Saint-Esprit. Et pour lui, ce que John disait, c'est que d'attribuer l'œuvre de la chair ou de Satan au Saint-Esprit, c'est vraiment une insulte à l'Esprit de Dieu plutôt que de l'exalter. Et c'est une forme de blasphème. Mais Michael Brown a dit que pense que c'est trop. C'est une réponse un peu trop forte, sachant que la Bible, selon lui, dit que le blasphème du Saint-Esprit est un signe, est un péché impardonnable. Et qu'ainsi de dire que si les gens, de nombreux gens, des leaders dans le milieu charismatique étaient coupables du blasphème contre le Saint-Esprit, ils seraient voués à l'enfer. Et bien sûr, ce n'est pas ce que John MacArthur a dit. Et Matthieu 12, 31 dit que chaque péché de blasphème sera pardonné, mais le blasphème du Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Mais Jésus utilise un article défini qui est très important dans ce passage. On ne croit pas que chaque péché, accidentel ou pas, de blasphème est impardonnable. Nous ne croyons pas ça. Peut-être que Michael Brown croit ça, mais ce n'est pas ce que l'Écriture enseigne. Jésus, dans ce contexte, répondait à un péché en particulier, un blasphème en particulier qui était très délibéré, qui provenait d'un cœur tellement dur qu'à ce point, c'était le point de non-retour. Ce que Jésus disait, si vous avez vos Bibles, vous pouvez regarder. En Matthieu chapitre 12, verset 31, il dit cela. Chaque péché et blasphème sera pardonné. Bien sûr, si les gens répondent, sauf le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. C'est un péché très particulier. Et Jésus, avant de parler de ce péché en particulier, annonce que tous les péchés du blasphème, sauf celui-là, sont pardonnés. Et montrer à quel point Dieu veut pardonner. Et il y a une seule exception, une seule catégorie qui s'applique à ces gens qui haïssaient Christ au cœur dur, des pharisiens qui étaient présents et qui l'avait appelé de Satan, alors qu'ils le connaissaient. ils savent et connaissaient, ils avaient entendu ces réclamations au sujet de lui être le Messie. Et leur blasphème était délibéré de cœur qui était complètement endurci, qui avait vu la vérité, qui avait vu Christ et sa gloire, et pourtant qui voulait le rejeter. Et ça, c'était le péché impardonnable. J'ai prêché une série de 3 messages là-dessus. Vous pouvez télécharger tout cela gratuitement sur Internet. Vous pouvez trouver ça sur Google. Le péché impardonnable de Phil Johnson. Et vous pouvez vous sentez libre de la télécharger, de l'écouter. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est blasphématoire, c'est un péché d'invoquer le nom du Saint-Esprit pour justifier des comportements, des doctrines qui sont falsifiées. Et la définition du blasphème, c'est cela. Et c'est pour ça qu'on résonne notre alarme, parce que notre désir, c'est d'appeler nos amis charismatiques à la repentance de cette pratique blasphématoire d'attribuer au Saint-Esprit des choses qu'il n'a pas fait et qu'il n'a pas dit. Et ces choses, nous pensons, sont blasphématoires. Et nous aimerions ainsi voir la repentance. Et le mouvement charismatique est rempli de leaders qui proclament des prophéties qui sont fausses et des messages, avec des messages, des révélations et des visions qui pensent venir de Dieu, alors que ceux-ci sont remplis de doctrines étrangères. Et c'est un problème très très vaste partout dans le monde. Et dans le milieu charismatique, on se retrouve dans un puits sans fond qui nourrit ce genre de doctrine. Beaucoup d'erreurs entrent dans le monde charismatique à cause de la porte ouverte par les charismatiques. Et je vous challenge, je vous mets au défi, si vous voulez, d'aller de trouver des statistiques qui contradisent ces affirmations. Mais le fait est que le mouvement charismatique a vraiment encouragé la venue, la présence de faux docteurs et de personnes qui sont des mauvais guides. Et Michael Brown affirme qu'il est plus... C'est plus dangereux pour lui de se détourner du feu réel d'essayer d'éteindre chaque petite branche qui est en feu. Et pour moi, j'aimerais répondre à cette question. Pourquoi est-ce que c'est important pour les charismatiques de faire face aux erreurs dans leur milieu? Parce que je pense vraiment que c'est le devoir de chaque pasteur de défendre la vérité de l'Église, de la sainte doctrine qui a été donnée, et de reprendre ceux qui amènent ces fausses doctrines et ces mauvaises pratiques. Et Brown dit, si un pasteur qui prend soin de son assemblée, qui enseigne la parole et qui n'est pas coupable de ses abus, et qui ne regarde pas les télé-évangélistes, pourquoi est-il responsable de ses erreurs? Et ça, je crains, c'est l'attitude de beaucoup de charismatiques, et typique, même des mieux, des meilleurs d'entre eux. Il y a une crainte d'une évaluation de leur mouvement qui pense qu'il peut être blasphématoire du Saint-Esprit. Mais lorsqu'on regarde à tout ce qui se passe dans le milieu charismatique, on doit être sceptique. Et pourtant, ces gens qui sont sceptiques sont appelés des rationalistes et souvent peuvent être accusés du péché impardonnable. Parce que avoir des doutes sur la source de certaines de ces prétendus peut mener à être accusé de ne pas suivre le Saint-Esprit, d'être rempli d'incrédulité et c'est pour cela que dans le mouvement lui-même, il n'y a pas de gens qui se lèvent pour protester. C'est une honte. Ce n'est pas une exagération d'appeler ça un blasphème, de voir que dans un million, on peut voir le nom de Christ être blasphémé et de ne rien faire. Mais en même temps, la critique de Michael Brown, la plus grande critique de John MacArthur, est liée à une expression anglophone qui dit de jeter l'eau du bain avec le bébé, impliquant qu'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être gardé et que si on se débarrasse de tout en même temps, on risque de perdre quelque chose de précieux. Michael Brown considère l'œuvre de l'esprit, on a regardé l'œuvre de l'esprit, il décrit dans son site et je pense que c'est terrifiant de voir les manières dont il identifie l'œuvre de l'esprit. Et par exemple, il affirme des personnes comme Cindy Jacobs, et vous pourrez regarder ce que cette personne enseigne, ou Mac Beckle, qui est pieux selon lui. Et si vous ne connaissez pas Mac Beckle, je peux vous le présenter dans quelques instants. Et Michael Brandt, s'oppose à l'interprétation de MacArthur du réveil soi-disant de Brownsville en Floride dans les années 90 que MacArthur appelle une orgie émotionnelle sans pensée irrationnelle, sensuelle, avec des compartements de la chair. Et le réveil de Brownsville fut une mec charismatique des années 95 à 99. Michael Brown était le leader de ce mouvement jusqu'à ce qu'il soit renvoyé en l'an 2000. Et lorsque ce mouvement fut terminé, l'Église était en dette de plus de 11 millions de dollars. Et Lee Grady, l'éditeur du magazine Charisma, écrit concernant cette chute. Et pour dire, selon Grady, je pense qu'il est réel et il est honnête par rapport à la situation des charismatiques et des malfonctions. Mais il écrit dans l'article, le titre est « Qu'est-ce qui s'est passé pour le feu de Brownsville ?» Et on voit une ligne, une phrase de cet article qui dit « Une nuit, pendant tout ce qui se passait autour du stage, j'ai couru à la colline où il prêchait et il a pris ma tête et il a crié « Feu !» Feu, plus Seigneur. Et j'étais un de milliers qui tombaient en arrière. Et vers la fin de l'article, Grady dit, lorsque les choses arrivent à leur fin, pour ceux de Pensacola qui étaient remplis de l'extase de ces premières années, et puis d'endurer des divisions, des résignations, la dette, le mot réveil semble plutôt vide. Je ne sais pas pour vous, mais ça ne paraît pas pour moi l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsqu'on regarde ce que Michael Brown classifie comme l'évidence du travail du Saint-Esprit, c'est difficile de sympathiser avec l'indignation de son but et de ses critiques, ceux qui s'opposent au mouvement charismatique. Et puisque cette image anglophone du bébé dans l'eau de bain est une image que les charismatiques utilisent beaucoup en réponse à leurs critiques, j'aimerais adresser cette question. Est-ce que c'est ce que nous faisons? De jeter un bébé avec l'eau sale du bain. Et j'ai trouvé des centaines de fois ces excuses des charismatiques qui disent des gens qui s'opposent ou qui essaient de critiquer le mouvement charismatique jettent un bébé avec l'eau du bain. Alors j'ai pensé, on va essayer d'approcher cette image, on va voyager dans l'eau du bain et on va voir s'il y a vraiment un bébé dans l'eau du bain qu'on essaie de jeter. Et ma première question pour les charismatiques qui prennent à cœur l'autorité des Écritures et ceci ici, vous sentez en danger par les critiques qui viennent. Quelle est votre proposition pour vous empêcher d'avoir toute cette saleté qui s'accumule dans l'eau de votre bain? Parce qu'il faut le dire, le mouvement charismatique donne excuse pour tellement de différents faux docteurs et de loups dans des habits de mouton. Il y a une abondance de cette évidence dans le mouvement charismatique. Non, maintenant c'est sûr que dans toutes les dénominations, toutes les églises, même dans les meilleures églises, il y a des loups. Mais je dois dire que dans le mouvement charismatique, depuis son commencement, a produit des scandales, l'un après l'autre, bien plus que ce qu'on peut trouver dans tous les autres milieux non charismatiques. Et pour ceux qui réclament avoir la vérité sur ce que ça veut dire d'être rempli de l'esprit, les charismatiques souffrent de manque du fruit de la sanctification. En plus, dans un peu plus d'un siècle, il y a eu tellement de doctrines et de personnes, d'individus bizarres qui sont nés de ce milieu. On ne peut pas le manquer. J'ai une liste immense de différents mouvements charismatiques et presque dans chaque mouvement, dans chaque petit groupe, il y a des faux docteurs. Il y a 5 ou 6 stations de télévision sur mon système satellite et tous ceux accueillent toutes sortes de charlatans et de personnes qui y sont pour l'argent. Et lorsque je regarde le télévangéliste, tous ceux qui sont les plus connus, la plupart, presque tous, sont charismatiques. Ceux qui vivent sur des richesses bâties sur des pauvres, l'abus des personnes, des faux mensonges, des faux miracles, des fausses promesses. Et pourtant, presque tous les leaders connus et élevés du milieu charismatique, la plupart ont vécu des scandales, ont amené le déshonneur à Dieu, et la plupart seraient disqualifiés pour le ministère sur un fondement biblique. Et pourtant, ils sont partout dans le monde. J'avais honte la dernière fois, je suis allé en Ukraine. Et on était dans un hôtel, dans Kiev. Et alors qu'on était dans un restaurant pour manger dans l'hôtel, il y avait un programme avec Jane Crouch et de TBN. Et j'ai trouvé c'était honteux que la vaste majorité des millions charismatiques dans le monde suivent ces télévangélistes. Les charismatiques, en tant que groupe, ne reçoivent pas bien la critique des réformés charismatiques qui prêchent l'évangile. Il y a des charismatiques réformés qui sont une minorité dans leur mouvement. Ils sont telle minorité qui sont presque négligés à cause de la petitesse de leur influence par rapport aux grands noms charismatiques qu'on voit à la télé avec leur costume flamboyant. Mais toutes les statistiques qu'on peut trouver, c'est que la télécharismatique, est un business qui rapporte des milliards de dollars. Mais il n'y a aucune redevabilité. Et c'est très difficile de compter leur influence. Le network de Trinity Broadcasting a plus de 100 millions de gens qui le regardent dans le monde, avec plus de 18 000 associés dans 100 pays. Ça, c'est une quantité de saleté. Une quantité de saleté tellement grande, c'est presque impossible de penser qu'il puisse avoir un bébé vivant dans ce désastre. Y avait-il vraiment un bébé dans l'eau du bain? Et qu'est-ce qui peut préserver ce bébé dans un milieu comme ça? Et combien de fausses doctrines, de faux docteurs sont nécessaires avant que les gens qui aiment vraiment le Seigneur et qui se soumettent à sa parole puissent accepter tout ça? Todd Bentley, devenu connu en avril 2008, elle a commencé quelque chose qui s'appelait un réveil à Lakeland en Floride. Un Canadien qui était très fort avec des bottes de cycliste et des tatous sur sa neck. À 15 ans, il avait violé un jeune homme. Et Bentley affirme qu'il avait commis beaucoup de crimes sexuels auxquels n'avait jamais été condamné. Il faisait même partie d'un ring, d'un groupe d'assaillants sexuels. Il était dépendant de la drogue à 17 ans. À 18 ans, il a fait une profession de foi et a rejoint un groupe charismatique. Lorsqu'il a rejoint le groupe avec son témoignage et son passé, les gens ont été frappés de son témoignage et ça n'a pas pris longtemps pour lui qui vienne en tête de son mouvement. En 2008, il était à Lakeland pour une semaine de rencontres qui se sont transformées en une série de 7 mois jusqu'en octobre de 2008. Et cet été, Bentley était là. Le centre du monde charismatique, avec un suivi internet sans pareil. Même la télé God TV, un réseau charismatique, annulait leur programme pour pouvoir mettre les rencontres de Lakeland chaque soir. Mais Bentley aimait la violence et il se vantait de ses méthodes de guérison unorthodoxes qui souvent impliquaient de frapper les gens dans l'estomac ou donner un coup de pied sur la tête. Il y a un homme qui a perdu une dent, on pouvait voir ça sur YouTube. Il y a quelqu'un qui a été frappé dans l'estomac tellement fort, il avait des blessures internes et l'homme avait un cancer au quatrième level. Et Bentley disait que c'était le Saint-Esprit qui lui avait dit de faire ça. Il frappait souvent les gens entre les jambes avec son genou, disant que c'était qu'il avait été oint de manière divine pour faire ces choses. Et en Norvège, il a créé un scandale en frappant une jeune fille sur la figure à plusieurs fois. Et pourtant, il se vante d'avoir ressuscité des morts, des douzaines de personnes. Cet homme était narcissique, souvent en colère, plein de profanité. Et sa présence sur la scène était vraiment absente de la grâce. Ce qu'il présentait, c'était le contraire du fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la patience, la paix, la douceur, la bonté, la fidélité, la gentillesse, la maîtrise de soi. Il n'y a rien de tout ça qui se voyait dans son comportement public. Et il n'y avait aucune doctrine biblique derrière ses enseignements. C'est une fraude charismatique et qui pourtant a été suivie par tellement de gens. Et un des leaders charismatiques a essayé d'avertir les gens de ne pas suivre cet homme pour son comportement. Todd Frill, qui faisait passer des vidéos de ces rencontres et d'avertir les gens de ne pas le suivre, de montrer que ses méthodes et ses enseignements n'étaient pas bibliques, que la manière dont il faisait les choses était dangereuse. Mais la plupart des dangereux l'ont repris, Tom Frill, plutôt que Todd Bentley. Et même des foules sont venues, de charismatiques en colère, sont venues dans son programme radio pour l'accuser de faire de commettre un jugement contre l'œuvre de Dieu. Mais ce que je me rappelle, c'est que beaucoup de gens citaient Actes 5, 38 et Gamaliel, qui disaient, je vous dis, laissez ces hommes tranquilles, car si ce plan est de Dieu, si c'est des hommes, ça va faillir, mais si c'est de Dieu, on ne peut pas, vous ne voulez pas vous trouver à opposer Dieu. C'est une réponse charismatique très commune. Pendant ces jours, j'écrivais pour mon blog Les Pyromaniaques. Souvent, le site, c'était de montrer le danger de doctrines aberrantes, de mouvements qui n'étaient pas orthodoxes, pas seulement les charismatiques, mais les émergents, les postmodernistes, et ceux vraiment qui n'avaient pas une vue élevée des Écritures. Mon partenaire de blog, Dan Phillips, qui est ici cette semaine, a écrit quelques posts de blog concernant ce réveil de Lakeland, où il plaidait les lecteurs d'évaluer les mouvements populaires avec des standards bibliques. Et il a essayé d'écrire ça sans critique directe de Todd Bentley. Il a dit « Si ça ne centre pas sur la personne de Jésus-Christ, ça ne peut pas être l'œuvre de l'Esprit. » Si ce n'est pas produit par la prédication de la parole, ce n'est pas l'œuvre de l'Esprit. Ce n'est pas produit, si ce n'a produit pas une vie saine et un comportement pieux et la maîtrise de soi, ce n'est pas un réveil authentique. Si les leaders ne sont pas des hommes connus pour les qualités listées en 1 Timothée 3, 1 à 7 et Tite 1, 6 à 9, et qui ne sont pas connus pour être soumis à la parole de Dieu et pour l'enseignement de la saine doctrine, alors ce mouvement ne devrait pas être suivi. Ça, c'est ce que je cite de son blog. Que pensez-vous? Ces choses sont des guides bibliques qui sont évidents, qui peuvent s'appliquer à des charismatiques, des non-charismatiques, à ceux qui veulent suivre Dieu. Et pourtant, nous avions une foule de personnes commentant sur notre blog nous avertissant de faire attention, car on pouvait se trouver en train de combattre contre Dieu et de blasphémer le Saint-Esprit. Et il leur disait, laissez-le seul, si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas de Dieu, rien va se passer. Et c'est la chanson, c'est le chant national, l'hymne national de ceux qui s'appellent évangéliques, qui sont ouverts, mais avec caution. Et pourtant, lorsqu'on regarde à cette idée du Saint-Esprit qui se manifeste de manière étrange et irrationnelle, comment est-ce qu'on peut mesurer Et comment on peut discerner ce qui est vrai de ce qui est juste? Parce que ce genre de prétendu, ce genre de comportement, ne peut être accepté ces comportements sont tout simplement sans authenticité de la Bible. Et pourtant, les charismatiques ont été embarqués par tous ces phénomènes d'aboiement, de comportement bêta, de soulerie, de transe. Et pourtant, ça fait une vingtaine d'années que ces comportements se passent dans le milieu charismatique, même s'il n'y a aucun support biblique. Et maintenant, le groupe est mené par un homme qui s'appelle John Crowder, qui prétend que le Saint-Esprit est une source supernaturelle narcotique qui permet d'entrer dans une certaine transe. Et il parle de fumer le Jéhovah Rwana. Et pourtant, il prétend que c'est le Saint-Esprit qui le fait comporter de cette manière. Et à Rick Joyners, son ministère du Morning Star, ils font le hokey-pokey du Saint-Esprit. Et vous pouvez regarder sur YouTube. À l'église de Bethel, à Redding, en Californie, ils montrent un tunnel de feu où les gens lèvent les mains et les gens courent au milieu. Et des gens qui ont des trans incontrôlables. Bill Johnson est le pasteur là-bas. Bill Johnson, pas Phil Johnson comme moi. Son église abrite le band très connu, le groupe qui est très populaire, Jesus Culture. Son épouse est connue pour voyager aux États-Unis et souvent s'arrêter au bord de la route pour crier « Wakey, wakey, réveillez-vous !» parce qu'elle croit qu'elle réveille des anges en préparation à un réveil. Il y a tellement de choses insensées qui viennent de ces milieux, je ne peux pas tout cataloguer, mais la popularité accroissante de la Jesus Culture a ouvert tellement de portes pour ces choses terribles et ça infiltre nos églises. Et beaucoup de jeunes évangéliques de notre génération aiment la Jesus Culture et comme il n'y a personne qui critique, il n'y a aucune défense. Et bien sûr, Todd Bentley qui encourage la violence dans un certain comportement, un soi-disant comportement spirituel. Et les gens le défendent en disant que Smith Wigglesworth faisait au XXe siècle, et c'était un héros pentecôtiste qui était appelé l'apôtre de la foi, et lui aussi essayait de guérir les personnes en les frappant. Et même le World Magazine rapporte que beaucoup de gens que Tom Bentley réclamait d'avoir sauvé, d'avoir guéri, se sont morts très très rapidement après les soi-disant guérisons. Il y en a même un qui est mort une semaine après sa soi-disant guérison. Il y a un chrétien, un non-croyant qui a écrit de Tom Bentley disant que qui pense que même les lunatiques sont embarrassés de Tom Bentley. Même des gens comme Fred Phelps, qui serait honteux d'être mis sur le même rang que Todd Bentley. Et Fred Phelps, c'est, vous pouvez regarder ce comportement aussi. Et Mais maintenant, vous pensez peut-être que ceux qui sont un peu plus sobres dans le milieu charismatique, vous pensez peut-être que ces gens s'élèveraient et peut-être ces gens seraient les premiers à condamner ces blasphèmes dans leur propre mouvement. Parce que bien sûr, j'ai regardé les réponses sur Twitter de ce que j'ai dit. Mais les notes que je reçois, c'est que les gens me disent que je parle d'extrême, mais pas ce qui se passe réellement. Peut-être on n'est pas sur la même page de penser que ces choses sont extrêmes ou que c'est la chose commune dans ce milieu. Mais même si c'était le cas, pourquoi est-ce que ces gens qui dénoncent ces choses comme extrêmes ne sont pas les premiers à se lever pour s'opposer à ce qui se passe dans leur propre milieu? Et pourtant, les charismatiques réformés, on ne les entend pas se lever pour reprendre ces choses qui se passent dans leur milieu. Mais ce n'est pas vraiment un thème dans leur doctrine. Et surtout en ce moment où ces comportements étranges sont à leur plus grande notoriété. Ces gens que nous espérions qui pourraient être une voie pour reprendre ces choses, souvent se rejoignent à ces mouvements pour les encourager. Même Sam Storms, qui a donné un appui aux prophètes de Kansas City pendant des années, et même Wayne Grudem, qui a donné une tolérance pour les abus prophétiques pendant des années, dans l'église du Vineyard, pendant les années 90. Et Grudem continue de nos jours à encourager, de certains points de vue, encourager les abus prophétiques de ce qu'on voit dans le milieu charismatique. Et sans l'appui académique de quelqu'un comme Grudem, toutes ces écoles de ministères supernaturels, du nord de la Californie et toutes ces autres douzaines de centres d'enseignement qui poussent partout n'existeraient pas. Et puis il y a aussi Jack Deer, un professeur à Dallas dans le passé, qui a relancé le cessationnisme et en quelques années inventa vraiment inventant ce qui amena le déclin de Paul Klein. Paul Klein qui était dans ce prof de Dallas encourage à Paul Klein qui fut trouvé comme quelqu'un qui était un saoul et qui accomplissait la sodomie. Mais lorsqu'on se limite même aux fruits de leurs leaders les plus respectueux, qui disent que le don de prophétie est encore à l'œuvre aujourd'hui et qui disent qu'ils ont des habiletés prophétiques et ils croient qu'ils ont des apôtres dans leur milieu et pourtant ils montrent qu'ils n'ont pas eu le discernement de reconnaître les faux docteurs et les gens qui allaient créer les scandales dans leur milieu. Et pire encore, eux et les gens qui les suivent reprennent les noms charismatiques qui dénoncent ces mouvements et ce qui s'est passé lorsque le ministère de Tom Bentley était à son mieux. Et je sais que j'ai pas de dons prophétiques. Toutes mes prévisions pour la saison de football américain, je me trompe tout le temps. Mais depuis le début, lorsque j'ai commencé à écouter Paul Klein ou lorsque j'ai vu Todd Bentley ce qu'il faisait, c'était évident pour moi de voir qu'il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes et qu'il y avait des signes des drapeaux rouges qui se levaient. Ces gens qui disaient qu'ils avaient une révélation directe de Dieu. Ésaïe 8, 10, 20, selon la loi, selon le témoignage, s'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière en eux. On n'a pas besoin d'un clairvoyant pour savoir, pour avoir un bon jugement si on le suit, la parole de Dieu. Mais pour quelqu'un comme moi, qui n'a pas de sixième sens et de puissance psychique, si je peux voir un désastre spirituel venir de ces milieux, pourquoi est-ce que ces prophètes et ces rêveurs de rêves ne le voient pas? Et Piper averti, même si c'était après l'évidence que Todd Bentley avait eu une affaire sexuelle en dehors du mariage, le test que nous avons de premièrement être doctrinal, dit Piper, un réveil qui n'est pas apporté par l'amour pour la vérité, la passion d'entendre la parole n'est pas un vrai réveil. Mais les gens qui s'attendaient à Piper pour avoir des réponses et son hésitation sur les questions comme Bentley et les autres ont vraiment rendu confus ceux qui le suivent. Et même dans les années 90, il a prêché un message. Est-ce que les signes et les merveilles sont encore pour aujourd'hui? À un temps où le mouvement charismatique était obsédé par la troisième vague du phénomène charismatique. Et Wayne Grudem aussi, son livre qui a eu une grande influence sur Piper. Et Piper disait que selon ce charismatique, ce mouvement charismatique, il était incertain. Il ne disait pas. Il ne savait pas où se mettre. Il disait, je priais dans mon bureau avec deux piles de livres sur mon bureau. Un avec écrit par des pasteurs évangéliques disant que les signes et les merveilles étaient donnés par Dieu pour seulement valider l'œuvre des apôtres. Et de l'autre côté, c'était les livres qui disaient que les signes et les merveilles et les miracles continuent de nos jours. Et la raison pour laquelle on ne les voit pas, c'est parce qu'on n'a pas la foi. Et alors que je lis ces deux piles de livres et je regarde les Écritures, je me trouve au milieu avec incertitude. 21 ans après, après avoir écrit cela, dans une interview avec un journaliste australien, Piper se rappelle de ce message et il dit qu'il avait envoyé un bus rempli avec 50 personnes dans une conférence des églises Vineyard et il n'était ni persuadé par les charismatiques, ni persuadé par les cessationnistes. Il ne pouvait pas s'identifier comme cessationniste ou comme pentecôtiste. Il préférait être dans un agnostisme au milieu. Et c'est toujours là où il est, sans affirmer ou sans faire résonner une alarme lorsque les mouvements charismatiques se lève. Lorsque Ted Bentley a commencé, je pensais que personne ne pourrait le prendre sérieusement. Et pourtant, presque tous les forums publics où les évangéliques se réunissaient, les gens se demandaient, est-ce qu'il est vraiment loin du Saint-Esprit? Et ça n'aidait pas les gens de voir que quelqu'un comme Piper ne pouvait pas ne pouvait pas avoir une opinion sur le sujet, même quand Todd Bentley s'était disqualifié par un comportement immoral. Et Piper, ce que je veux dire, c'est que cette vue d'être ouvert, mais d'être ouvert avec caution, ça dépend dans quelle direction on est ouvert et on a de la caution, on fait attention. Mais le problème, c'est que les leaders auraient dû se lever dès le départ, avant que cet homme frappe quelqu'un dans la figure et lui enlève des dents. Mais cet agnosticisme délibéré est dangereux pour l'Église, parce que les extrémistes et les charlatans peuvent faire ce qu'ils veulent avec une liberté totale. Et ceux qui ont le plus d'influence par les manières charismatiques, même dans les milieux réformés, restent dans une certaine indifférence inconfortable. J'ai parlé de Michael Brown. Il demandait pourquoi est-ce que les pasteurs charismatiques et pentecôtistes devraient renoncer aux extrêmes dans leur mouvement. Même les continualistes qui font attention sont curieux, ils sont intrigués. Ils refusent de rendre jugement jusqu'à ce que les choses tombent en miettes et que ça soit trop tard. Mais lorsqu'on regarde dans cette eau sale et que cette passivité, est-ce qu'il reste du bébé? Il faut oublier tout cela. D'être divisé dans notre esprit et de ne pas parler sur ces choses, c'est une tromperie. Mais lorsqu'on parle encore une fois, et on va continuer à parler de ces choses demain dans ma prochaine session, mais ce nouveau mouvement dans le charismatique, des paroles fraîches de prophétie, qui parlent, et je veux dire aussi, j'ai des amis charismatiques, des gens de ma famille, des voisins, des gens que je connais, des gens que j'aime, qui font partie du mouvement charismatique. Et malgré le fait que je suis frustré avec leur passivité, que j'ai des critiques, ce n'empêche pas que j'ai du respect et de l'amour pour des gens comme Sam Storm et John Piper et Wayne Grudem. Et j'ai reçu beaucoup de leurs prédications et de leurs enseignements, et je recommande nombreux de leurs écrits. Mais je dois dire que je suis en fort désaccord avec le fait que tellement d'hérésies se lèvent dans le milieu charismatique, et bien que cela ne diminue pas le respect et l'affection et que j'ai pour eux, mais si on prenait ces gens que j'appelle mes amis, si on leur parlait, je pense qu'ils affirmeraient que le don de la prophétie, c'est le bébé dans l'eau. Et pourtant, cette question de la prophétie moderne, c'est ce qui me pose le plus de questions. Comme si Dieu parlait encore dans l'esprit de tous les chrétiens qui continue à révéler des suppléments de révélation constamment, et cette nouvelle révélation personnelle et privée est naturellement supérieure en importance à celle de la Bible et en pratique. C'est peut-être pas leur théologie, mais ça devient leur pratique. Dans le mouvement charismatique moderne, il semble que le don de prophétie est devenu bien plus important que celui des dons des langues maintenant. Et beaucoup de ceux qui parlent en langue maintenant, c'est plutôt en matière privée. Dr. Piper dit qu'il a recherché dans des langues, qu'il ne l'a jamais reçu. Il dit « Je ne crois pas qu'on doit avoir le parallèle en langue pour pouvoir authentifier le deuxième baptême de l'esprit. » Même s'il l'a essayé, et pourtant, il continue de prier que Dieu lui donne le don des langues. Et ces paroles avec lesquelles il décrit la manière dont il prie, il dit « Père Céleste, beaucoup de mes frères et mes sœurs ont ce jouet, ce don. Est-ce que je peux l'avoir ?» Mais ce que Dr. Piper communique, c'est que le don des langues, ce n'est pas le meilleur ou le don le plus prominent du Nouveau Testament. C'est ce que Paul disait. Un de ses arguments principaux en 1 Corinthiens 12 et 14. Le don des langues n'est pas un don qui devait être principal. Ce qui se passe, c'est que maintenant, le don de prophétie est maintenant en premier plan et le don des langues est en arrière-plan. Et en même temps, alors que ce mouvement de prophétie s'avance, la définition devient de plus en plus vague. Parce que les charismatiques ne voient pas les fausses prophéties comme un problème. Souvent, il y a des prophéties qui sont complètement fausses et ils disent « Oh, c'est pas un problème, c'est ce qui se passe la plupart du temps. » Et toutes ces fausses prophéties remplissent l'Église. Et les charismatiques réformés défendent cette pratique. Et je veux répéter une fois de plus, bibliquement, un prophète, bibliquement, c'est quelqu'un qui parle la parole de Dieu. Quelqu'un qui parle les paroles de Dieu. On voit ça en Deutéronome 18, dans le principe de l'Ancien Testament qui parle sur la venue du Messie. Le Messie est le grand prophète au-dessus de tous les prophètes. Et la tâche du prophète en Deutéronome 18:18, comme le dit, je lèverai parmi vous un prophète parmi vous, parmi vos frères, et il parlera mes paroles par sa bouche, et il parlera ce que je lui commande. Et c'était le rôle donné à Aaron. Aaron était le prophète de Moïse, comme Jésus était le prophète de Dieu. Et je n'utilise pas le langage d'habitude, mais même Dieu dit à Moïse, je te ferai Dieu pour Pharaon, et Aaron sera ton prophète. Et Moïse, en ce qui le concerne par rapport à Pharaon, il était Dieu. Et Aaron, il était le prophète. Et ainsi, le rôle d'Aaron, c'était de parler pour Moïse et de porter ce message. Et on voit dans les Écritures que la prophétie, c'est de parler les paroles que Dieu a mises dans votre bouche. Moïse était l'autorité selon Dieu au-dessus d'Aaron, et Aaron était le prophète. Et c'est comme ça que la vraie prophétie fonctionne. Les paroles sont mises dans la bouche du prophète par Dieu lui-même, et lorsque le prophète parle, il parle pour Dieu. Si c'est un vrai prophète, il est comme la bouche de Dieu, et il parle avec autorité, un message qui n'est pas erroné, qui est infaillible, Et dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament ne voit jamais un changement de la définition du prophète. Un prophète, c'est pas quelqu'un qui annonce spontanément ce qui lui vient à l'esprit. Un prophète authentique ne parle pas des demi-vérités avec des ambiguïtés ou simplement donne une opinion qu'il croit. Un vrai prophète, c'est quelqu'un qui parle de la parole de Dieu. Et une vraie prophétie authentique a l'autorité. C'est pas peut-être ou si, mais c'est un commandement. Un commandement qui doit être obéi. Et si un avertissement, il doit être écouté. Et la Bible nous dit de tester les prophètes en regardant si leurs prophéties sont vraies ou fausses. Et le problème avec les prophètes modernes est vraiment qui nous montre à tous ceux qui réfléchissent que les prophètes modernes ne peuvent pas, on ne peut pas leur faire confiance parce que tous admettent que leurs prophéties sont souvent fausses. Eux-mêmes, ils doivent l'admettre parce que c'est évident. Tous font des prophéties qui sont fausses, qui ne se réalisent pas. En 1989, Bob Jones affirma que la plupart de ses prophéties étaient fausses. Et après 2 ans, il fut rejeté du ministère parce qu'il fut mis en évidence qu'il avait abusé des femmes en utilisant ses visions prophétiques pour les forcer à se déshabiller. Et même un autre pasteur charismatique, Mike Bickle, dit que 80% de tous les miracles, des prophéties qu'il a vues, il a témoigné qu'ils étaient fausses. Et il dit ça avec un sourire, sans honte, sans excuse. Il pense que les charismatiques ne devraient pas être troublés par toutes ces faux prétendus qui sont dans son milieu. Et s'il est juste, ça veut dire que 4 entre 5 prophéties sont fausses dès le départ. Et même les vraies prophéties, les 20% qui peuvent être vraies, peuvent souvent être fausses parce qu'elles sont mal interprétées et peuvent égarer les gens. Et je pense que c'est même une mauvaise estimation parce que c'est encore pire. Et là, on a un des avocats les plus dévoués aux charismatiques. Et sans honte, il affirme que 4 sur 5 de leurs prophéties sont fausses. On ne peut pas passer ces choses. C'est dangereux. C'est contre les Écritures. Ça s'oppose à la révélation de Dieu. Ça corrompt la vérité. Et ça dirige les gens vers une mauvaise voie. Et ça s'attaque à la suprématie de la vraie prophétie qu'on voit dans la Bible. C'est une question critique. Il y a beaucoup de livres qui ont été publiés par les charismatiques réformés pour dire que c'est pas grave si les prophètes donnent des fausses prophéties la plupart du temps. Et ces choses viennent avec un poids académique et ça justifie les gens pour croire toutes sortes de choses et pratiquer toutes sortes de choses. Et ce que j'aimerais que vous vous rappeliez de cette session, c'est ceci. Premièrement, il y a un potentiel monstrueux de mal lorsqu'on assume que notre imagination est source de révélation du Saint-Esprit. Et les gens qui ordonnent leur vie selon les émotions, l'intuition, pensant que y a une certaine autorité qui vient. C'est de la folie. Proverbe 28, 26 dit « Celui qui croit en son propre cœur est un fou. » C'est superstitieux de croire cette manière. Et c'est contre le concept biblique du discernement. De revendiquer que Dieu nous dit quelque chose lorsqu'il ne le dit pas, c'est une présomption qui est méchante et mauvaise. C'était un crime du temps de Moïse de faire ça, d'avoir des prétendus de cette manière. Et beaucoup de comportements dans le milieu charismatique découlent d'une manière de penser où on essaie d'attribuer à Dieu des choses qu'il n'a pas dit. Et on parle de Paul Kane, une fois de plus, dans les années 90, qui était connu comme un des prophètes, le plus grand prophète charismatique. Les gens disent qu'il pouvait lire les pensées des gens. Il parlait. Et lorsqu'on parle de Paul Kane, il est associé avec beaucoup de personnes, et je saute quelques noms. Mais Paul Kane fut engagé dans une église, dans l'église qui fut à une époque celle de Martin Lloyd-Jones, qui le recevirent comme le prophète de leur église pendant quelque temps. Et lorsqu'on l'a rencontré avec MacArthur en 92, on l'a vu et on pouvait voir qu'il n'était pas ce qu'il prétendait être. Il semblait être saoul, il était incohérent. Il prétendait parler, donner une prophétie sur John MacArthur. Et il était faux, donc complètement faux. Et lorsqu'il réalisa que ce qu'il disait n'avait rien de vrai, il resta silencieux il était silencieux. L'excuse qu'on nous donna, c'était qu'il était loin d'une puissance tellement forte que souvent c'est ce qui se passe avec lui, qu'il devient silencieux dans des moments comme ça. Et c'est étonnant que tellement de personnes donner tellement confiance à quelqu'un comme Paul Kane, même la plupart des gens du milieu charismatique réformé, Wayne Grudem, Sam Storm, John Piper étaient derrière lui. Mais Paul Kane n'aurait jamais dû être quelqu'un digne de confiance. Il avait suivi des gens qui faisaient des guérisons miraculeuses et finalement revint en montée, même avant son acceptance parmi les charismatiques réformés. Il avait déjà un passé douteux et pourtant resta en prominence jusqu'en 2005. Et puis finalement, fut mis en lumière qu'il avait vécu une double vie pendant toutes ces années. Il était saoul, un alcoolique et un homosexuel. Et pourtant, les gens le voyaient comme un mentor. Et pourtant, quand on l'a rencontré, on pouvait voir qu'il y avait un problème. Et pourquoi est-ce que les charismatiques ne pouvaient pas voir? Et la raison est simple. Ils n'ont pas le don de prophétie, ils n'ont pas le don de discerner les esprits. Ils discernent des esprits de la mauvaise manière. Ça ne se passe pas par l'intuition. Ça se passe par la parole de Dieu. Et pourtant, même de nos jours, les gens qui l'ont affirmé n'ont toujours pas renoncé à ces prophéties. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un ami qui avait affirmé et endorsé certains dans un de ses livres, il avait affirmé cet homme et continue à l'affirmer, même malgré tous les scandales. Et il y a même John Piper qui disait « Paul Kane était un charlatan ». Je pense, mais il était vraiment un prophète. Et ce n'est pas un bébé légitime dans l'eau du bain charismatique. Et les meilleurs théologiens, qui sont derrière le milieu charismatique, continuent à justifier les comportements et les choses qui ne peuvent être vérifiées et qui sont souvent prouvées d'être fausses. C'est une naïveté pécheresse qui encourage plus de naïveté pécheresse qui est contre la foi. Et la confusion d'avoir est-ce que Dieu a parlé ou pas est une des menaces les plus dangereuses contre la foi qu'on puisse imaginer. Et j'aime mes amis charismatiques réformés, mais lorsqu'on regarde aux fruits spirituels qu'ils portent, mais lorsque je pense à toutes ces choses que je vois qui sont bonnes, les bonnes choses ne sont pas enracinées dans leur distinctive charismatique, mais le fruit vient de leur amour de Christ, de l'Évangile et leur soumission à la Bible. Et leurs croyances charismatiques sont en conflit avec leur vue sur la Bible, qui souvent c'est détrimental à leur ministère. Et ce qui se passe, c'est qu'on voit de la confusion, du chaos, des fois même pire. Le fruit de l'enseignement charismatique, même des meilleurs de leurs enseignements, il y a de la confusion et du chaos. Et peu importe à quel point je regarde, à quel point j'étudie, je ne pense pas qu'un bébé pourrait survivre dans une eau de bain aussi sale. Il y a une raison pour laquelle ce mouvement a tellement de charlatans, de faux docteurs. C'est dans l'ADN du mouvement. Lorsqu'on regarde aux racines du mouvement, historiquement, on peut voir que le mouvement est né d'un buisson et pas d'un arbre à fruits. Le mouvement charismatique a produit tellement de faux docteurs et de mauvais comportements. C'est parce que le mouvement charismatique encourage la naïveté et que c'est normal pour des croyants remplis du Saint-Esprit de recevoir toutes sortes de révélations mystiques et c'est une porte ouverte pour toutes sortes de mauvais vents. Il y a même Mark Driscoll qui a mis une vidéo disant que l'Esprit de Dieu lui a donné du discernement pour pouvoir voir les escapades sexuelles de fornicateurs dans son église. Et ce qui me trouble, c'est tellement de gens qui sont toujours derrière ces personnes. Des gens jeunes, fatigués et réformés qui pensent que d'avoir du discernement pornographique. Et pourtant, cela reste en silence. par les hommes et les leaders qui sont reconnus et qui ne se lèvent pas pour aider ceux qui sont trompés. Les fausses prophéties ne sont pas une question mineure qu'on peut ignorer. On ne peut pas passer à côté d'un problème aussi grand. Et lorsqu'il y a tellement de faux miracles et de fausses pratiques qui donnent un nom aussi mauvais à l'Église, et c'est un parallèle qu'on voit dans l'Église médiévale. Et une fois de plus, ce qu'on voit, c'est qu'on a besoin d'une nouvelle réformation, une nouvelle réforme. C'est aussi sérieux que le gnosticisme du 2e et 3e siècle. Mes livres préférés sur l'histoire de l'Église, c'est un livre par William Cunningham, théologie historique. Il parle des mauvaises doctrines des premiers siècles du christianisme. Et il parle d'hérésies qui sont venues d'hommes fous qui n'avaient pas de standard et qui donnaient vraiment une porte complètement ouverte à leur imagination. Et c'est une description du mouvement charismatique moderne, des gens qui rêvent des visions qui viennent de leur imagination, disant que ça vient de Dieu. Et plus ces mouvements s'intègrent parmi nos églises et dans nos milieux, plus le danger est grand. Et je pense aujourd'hui, c'est l'heure de nettoyer le bain. Il y a trop de boue, il y a trop de saleté. Il faut vider l'eau. Et ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de bébé dedans.
We trust you're encouraged by what you've just heard. You've been listening to Grace to You. For more information about Grace to You, visit www.gty.org. That's gty.org. Or call 1-800-55-GRACE. Thanks again for your interest in Grace to You, where each day we're unleashing God's truth, one verse at a time.